Gaston Boissier, les correspondances intimes, Cicéron et Madame de Sévigné.
Deuxième partie. Après avoir satisfait notre esprit à lire et à admirer ces deux correspondances, il convient d'y chercher un plaisir plus grave. Quels que soient ici les agréments littéraires, l'intérêt historique est plus grand encore. Je ne veux pas dire seulement qu'elle nous raconte d'une façon plus exacte les événements politiques. Le service qu'elle nous rend est bien plus important. Elles nous font voir le passé par ses côtés intoires ne s'occupent pas. Et qui, sans leurs indiscrétions, serait perdu pour nous? Essayons donc de profiter des renseignements secrets qu'elles nous donnent. Et pénétrons avec elle jusqu'au cœur des sociétés dont elles nous entretiennent. Entre la vie publique et la vie de famille, il y en a d'ordinaire une autre qui tient le milieu et qu'on appelle la vie du monde. Elle existe à peu près partout de quelque manière. Pour peu que la société qu'on étudie soit lettrée et polie, il est impossible qu'on n'y rencontre pas quelques-unes de ces réunions où le besoin d'échanger leurs idées rassemble des gens qui se conviennent par leurs opinions et leurs habitudes. Mais l'importance de ces réunions varie suivant les époques. À Rome, sous le gouvernement républicain, la politique occupait trop les esprits pour laisser au reste beaucoup de place. Les grandes choses qui se passaient tous les jours sur le Forum et le Champ de Mars y attiraient la foule, et quand les affaires sérieuses étaient finies, ces mêmes lieux devenaient le théâtre des divertissements et des plaisirs. Tandis que les curieux écoutaient les charlatans et regardaient les joueurs de paume, la belle compagnie se promenait sous les portiques qui entouraient le Champ de Mars, et près de cet endroit du Forum où l'on avait placé le premier cadran solaire. C'était le rendez-vous ordinaire des élégants de Rome. C'est là qu'ils venaient tous les jours chercher le plaisir de voir et d'être vus. Mais quand ils voulaient s'entretenir d'une façon plus intime, il leur fallait bien former des réunions plus discrètes. Ils se rassemblaient alors dans des cercles ou des festins, in conviviis et in circuis. Ces deux mots se retrouvent presque toujours joints ensemble dans les écrivains de cette époque, et ils désignent pour eux ce que nous appelons aujourd'hui le monde. Nous pouvons prendre quelque idée de ces repas où l'on venait causer librement des affaires politiques et rire des scandales privés par ce qu'en dit Cicéron dans sa correspondance. Il s'y plaisait beaucoup et il devait beaucoup y plaire. C'était un grand bonheur pour lui de n'être pas obligé de se contraindre, et il n'avait jamais plus d'esprit que lorsqu'il pouvait dire sans se gêner tout ce qui lui traversait la tête. Aussi, quand son ami, le riche Papirius Poetus, qui, à ce qu'il semble, traitait les gens du monde, attristé par les malheurs de la République, ne reçut plus personne à dîner chez lui, et refusa d'aller dîner chez les autres, Cicéron lui écrivait en riant que sa retraite était une calamité publique et le sommet de reprendre ses anciennes habitudes au premier souffle du printemps. « Sérieusement, mon cher Poetus, s'ajoutait-il, il vous faut vivre avec d'honnêtes gens, d'un commerce agréable et qui vous aime. Soyez sûr qu'il n'y a rien de plus propre à rendre la vie douce et heureuse. Et ce n'est pas la volupté que j'envisage ici, mais l'agrément de la société et le délassement de l'esprit, qui n'est jamais plus à l'aise que dans les conversations familières telles que la table les fait naître. Aussi, le mot convivia, dont nous nous servons, me semble-t-il bien plus heureusement trouvé que les mots grecs qui désignent la même chose, car c'est là proprement qu'on vit ensemble. Ce qui manquait à ces repas de gens d'esprit, pour qu'on pût les comparer tout à fait à nos réunions du monde, c'était la présence des femmes. Elle n'y était guère admise, j'entends les femmes honnêtes. Les autres seules se permettaient d'y assister, au grand scandale des Romains sévères. Cicéron raille beaucoup Claudia de ces festins qu'elle donnait à la jeunesse de Rome dans ses jardins des bords du Tibre. Et ce n'est pas sans quelque honte qu'il nous raconte qu'il a dîné lui-même chez Volumnius à côté de la comédienne Citéris. Or, il est bon que les femmes honnêtes assistent à ces sortes de réunions, non seulement parce qu'elles y apportent beaucoup d'esprit, mais aussi parce qu'elles empêchent beaucoup d'excès. La gaieté bruyante des convives, quand elle n'est pas tempérée par leur présence, court le risque d'aller trop loin, et les exemples ne nous manqueraient pas pour montrer que chez les Romains, elle dégénérait trop souvent en honteuse débauche. Aussi ai-je plus de goût pour leur cercle que pour leur festin. L'absence des femmes avait là beaucoup moins d'inconvénients, quoiqu'elle y fût encore très regrettable. Et il me semble que l'on peut voir à la rigueur quelque image de ce que nous appelons aujourd'hui le monde dans ces assemblées de personnages importants qui venaient causer ensemble à leurs heures de loisir et pour se délasser des affaires. Les beaux dialogues de Cicéron nous donnent quelque idée de leurs entretiens. Il aime à réunir non pas des savants de profession qui ne savent que disserter, mais des hommes d'État qui joignent la pratique de la vie à la connaissance des lettres, d'honnêtes gens comme on disait au XVIIe siècle. Le lieu de leur réunion est tantôt une riche bibliothèque, tantôt quelqu'une de ces belles villas qu'ils possédaient à Cum, à Bolès ou à Pompéi. On y parle de philosophie ou d'éloquence, en face de Pouzzoli et du Vésuve. On a les yeux fixés sur l'admirable spectacle du golfe de Naples. On tire des arguments et des images de ces flots tranquilles ou agités, des vaisseaux qui passent et de la lumière, tour à tour jaune, rouge ou pâle, qui colore la mer aux différentes heures du jour. Les beaux paysages de Platon sont imités avec un art merveilleux, mais en même temps appropriés aux personnages qui vont s'y réunir, ce qui fait naître quelquefois, entre le modèle et la copie, des différences curieuses. Ainsi, le début de l'orateur rappelle tout à fait celui du Phèdre. On y trouve aussi un platane au pied duquel on s'assoit pour discuter. Seulement, au lieu de se coucher sans façon sur l'herbe, ainsi que font Socrate et ses amis, Crassus fait apporter des coussins. Ces coussins nous jettent tout de suite dans un monde différent. Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble qu'on en retrouve l'influence dans tout le reste du dialogue. L'entretien n'a plus ce charme naturel, ces brusques vivacités, cette démarche aisée qu'on admire dans Platon. Il s'avance d'un pas plus régulier et plus didactique. On voit bien que nous ne sommes plus aux portes de la démocratie d'Athènes, et que ce ne sont plus seulement des Grecs et des gens d'esprit de toute classe, mais des grands seigneurs romains, graves et cérémonieux, qui parlent. Après tout, ils parlent fort bien, quoiqu'avec un peu moins de grâce et de simplicité, et ils nous donnent l'idée d'un monde très distingué, et qui avait fort grand air. Cicéron, dans son traité des devoirs, a tracé les règles de ces sortes d'entretiens, et il le fait en homme qui devait y exceller. Il faut y mettre de l'agrément, dit-il, et fuir l'obstination. Surtout que personne ne s'empare de la parole comme d'un terrain qui lui appartient, et n'essaie d'en exclure les autres. Il est bon qu'en cela, comme dans tout le reste, chacun ait son tour. Ces conversations roulent d'ordinaire sur les affaires privées, sur la République ou sur les sciences et les arts. Si elles s'en détournent, on doit les y ramener, mais avec discernement, car tout le monde ne se plaît pas toujours au même sujet. Il faut aussi remarquer le moment où la conversation cesse d'intéresser, et de même qu'on a pris son temps pour la commencer, on doit savoir la finir à propos. Ces réunions de grands personnages, distingués par leur naissance et leur manière, et qui, malgré les fonctions dont ils étaient revêtus, trouvaient le temps d'aimer la philosophie et les lettres, devaient avoir, à ce que je crois, plus d'un rapport avec ce monde du XVIIe siècle que la correspondance de Madame de Sévigné nous fait entrevoir. Il y avait cependant de grandes différences. D'abord, les sujets d'entretien n'étaient pas tout à fait les mêmes. En France, on ne s'occupe pas des affaires publiques et l'on en parle le plus bas qu'on peut. Le pouvoir absolu ne permet pas qu'on les discute et il lui déplaît qu'on s'en entretienne. Nous voyons dans Saint-Simon que Louis XIV n'aimait pas plus les discoureurs que Napoléon ne souffrait les idéologues. Aussi, les personnes sages comme Madame de Rambouillet avaient-elles prudemment banni la politique de leur salon. En revanche, si l'on ne s'occupait pas des affaires publiques, on y causait beaucoup des choses privées. À la place des secrétaires d'État qui n'étaient pas sûrs de vouloir percer, on cherchait à découvrir les mystères du cœur. C'était une curiosité que l'autorité la plus soupçonneuse ne pouvait pas trouver coupable. On y faisait, en se jouant, des études, ou comme on disait, des anatomies de sentiments et de passions qui laissaient bien loin d'elles Théophraste et ses savants traités. C'était le sujet naturel de l'admission des femmes dans ces sociétés polies. Crassus et Antoine, Lélius et Scipion, Cicéron et Atticus devaient naturellement converser entre eux des choses qui les occupaient sans cesse, la politique, la philosophie, l'art oratoire. Mais les femmes imposent d'autres sujets. Comme les passions sont le grand intérêt de leur vie, elles ont amené la mode de s'en entretenir, et c'est ainsi que ces fines analyses sont devenues l'occupation et le charme des salons où elles dominent. Une autre différence entre la société polie du XVIIe siècle et celle du temps de Cicéron, c'est que ces sortes de réunions qui constituent la vie du monde étaient beaucoup moins fréquentes chez les Romains. Elles n'avaient rien de régulier ni de suivi, et le plus souvent le hasard seul, en réunissant dans un même lieu des gens d'esprit qui se connaissaient, leur donnait naissance. Il y a loin, de là à ces salons ouverts tous les soirs comme l'hôtel Rambouillet, ou à ces réceptions à jour fixe comme les samedis de Mademoiselle de Scudéry. Mais à Rome, les loisirs étaient rares. Les hommes politiques, occupés des intérêts de leur candidature, des affaires de leurs clients, ou des soins que réclamaient leurs fortunes immenses et embarrassées, n'avaient pas un moment à perdre. Chez nous, au contraire, un grand seigneur avait toujours du temps de reste. Et comment pouvait-il trouver le moyen de l'employer agréablement quand il était interdit de s'occuper des affaires de l'État et ennuyeux de songer aux siennes? L'inaction chassait les gens de chez eux. Elle les réunissait dans des lieux où ils étaient sûrs de trouver un monde choisi. Là, en l'absence d'événements plus graves, on pouvait toujours causer des pièces nouvelles représentées chez les grands comédiens ou au théâtre de Monsieur, et donner son opinion sur le livre qui venait de paraître chez Barbin ou chez Cramoisy. Ou même si ce divertissement venait à manquer, il restait au moins la ressource de filer le tendre et le passionné à l'hôtel de Rambouillet ou à celui de Richelieu quand on était d'illustres maisons, ou dans quelques salons du Marais si l'on ne s'élevait pas au-dessus de la bourgeoisie. Ces réunions polies étaient la grande distraction, ou plutôt la grande occupation de ce siècle. Leur influence ne se fait pas seulement sentir alors dans la littérature, elle donne un tour particulier au caractère, aux idées, aux sentiments, et pour ainsi dire, à la vie de tout le monde. Quand elles prennent une telle importance, elles peuvent aussi présenter quelques dangers. Il est à craindre que les caractères ne s'affadissent dans ce commerce de tous les jours. Ils se polissent, mais ils s'usent par ce frottement continuel. En même temps que leurs aspérités disparaissent, leur originalité s'efface. La langue s'énerve en se raffinant. Le convenu remplace le naturel. On pense et on parle comme on marche et comme on salue. C'est-à-dire que les passions et les idées finissent par prendre cette uniformité décente et froide qu'on remarque dans l'attitude et la mise des gens qui fréquentent les salons. On ne peut pas nier qu'au XVIIe siècle, beaucoup de personnes n'aient été gâtées par ces défauts. Heureusement, Madame de Sévigné sut s'en préserver. Rien ne put altérer cette excellente nature que la vivacité de ses impressions ramenait toujours dans la vérité. Tout en vivant au milieu des autres et en s'y plaisant, elle demeura elle-même. Dans sa jeunesse, elle avait traversé l'hôtel Rambouillet. C'était un séjour dangereux. Elle n'en garda que ce qu'il avait de bon, la délicatesse des pensées et la finesse du style. Peut-être aussi est-ce là qu'elle apprit cette science profonde et sûre des choses de la vie qui ne la quitta plus. Comme on vivait alors dans le monde, dès ses premières années, on y prenait vite une certaine expérience des passions, et l'on devenait familier avec elles avant même que le cœur eût assez vieilli pour les ressentir. À force de les côtoyer et de vivre dans leur voisinage, on s'habituait à les voir sans étonnement et à en parler sans embarras. C'est ainsi, je le suppose, qu'a dû être élevée cette charmante Henriette des femmes savantes, une des plus heureuses créations de Molière. On reconnaît qu'elle a vu le monde de bonheur au ton net et décidé dont elle parle des choses, à l'assurance de ses propos avec Litandre, à ses spirituelles plaisanteries sur le mariage et ses suites, et surtout à cette façon de prédire à Trissotin, quand il veut l'épouser de force, le sort qui le menace, et auquel il est du reste si philosophiquement préparé. Peut-être en l'entendant parler ainsi, quelques personnes regretteront-elles qu'il lui manque cette fleur de pudeur délicate et d'aimable ignorance qui est un grand charme à une jeune fille. Mais il faut s'y résigner, elle n'est pas rêveuse ni romanesque. La connaissance qu'elle a du monde l'arme contre les chimères et les illusions. Elle y a pris le sentiment de la réalité. Elle raisonne, elle calcule, elle connaît mieux que Clitandre les fâcheux besoins des choses de la vie et ne veut pas l'y exposer. Je me figure que Mademoiselle de Chantal, lorsque, avec une beauté à attirer tous les cœurs, elle parut pour la première fois dans ces salons joyeux de la Régence, avait autant de liberté dans ses propos, autant de pétulance dans ses manières, et au fond, autant de sens dans sa conduite que l'Henriette de Molière. Dès ses premières lettres, nous trouvons la trace de cette expérience qu'elle tenait de l'usage du monde. Sa situation en ce moment est aussi délicate que celle d'Henriette. Elle est aux prises non plus avec Trissotin, mais avec Vadius, c'est-à-dire avec ce pauvre ménage, son précepteur, qui était devenu amoureux d'elle. Ménage, comme tous ceux qui sentent qu'ils ont tort d'aimer et qui ne peuvent s'en défendre, était brusque, jaloux, mécontent. Il trouvait partout matière à se plaindre, et il fallait sans cesse l'apaiser. Mademoiselle de Chantal y mettait une grâce charmante, ne voulant ni perdre la société d'un si savant homme, ni encourager sa folie, et le maintenant, avec une habileté au-dessus de son âge, entre l'espérance et le découragement. Cette tactique, délicate pour une jeune fille, nous prouve qu'elle se sentait sûre d'elle-même et ne s'effarouchait pas facilement. La suite de sa vie répond à ce début. Elle ne connut jamais la pruderie. Elle conserva toujours la haine des fausses hontes et des délicatesses affectées. Si, dans sa jeunesse, elle ressemblait assez à l'Henriette des femmes savantes, on peut dire qu'elle prit plus tard quelques traits de l'Elvire de Tartuffe. Elle avait le goût des histoires légères et l'habitude de les raconter sans embarras. Les choses ne l'effrayaient pas, les mots encore moins. Elle nomme tout par son nom. Elle parle la langue même de Molière dans ce qu'elle a de plus vif et de plus hardi. La liberté de ses propos, que le chevalier de Perrin avait soigneusement affaiblie et que les nouveaux éditeurs ont bien fait de rétablir, est aussi éloignée que possible du langage artificiel et convenu des précieuses. Quelques personnes même trouveront peut-être que le naturel et la vérité s'y laissent trop surprendre. En tout cas, il n'y a rien là qui ressemble à cette fadeur dont ne peuvent pas toujours se défendre les gens qui fréquentent trop les salons. Madame de Sévigné, qui y passait sa vie, a eu la bonne fortune d'en prendre les qualités sans en avoir les défauts. Aussi, quand je veux imaginer une sorte d'idéal de la vie du monde, où la politesse ne dégénère pas en banalité, où l'originalité des caractères se conserve sous l'élégance uniforme des manières, où l'habitude de vivre avec les autres ne détruit pas celle de penser pour soi, je ne vais pas exhumer, comme l'a fait un grand écrivain, la société du grand Cyrus. Je songe à Madame de Sévigné et aux amis qui l'entouraient. Je les réunis dans quelqu'un des lieux où ils se voyaient d'ordinaire. Par exemple, dans ce jardin si riant et parfumé de Madame de Lafayette, et je les laisse causer ensemble. Les entretiens de ces personnes d'esprit, parmi lesquelles se trouvaient bien des gens sérieux comme Corbinelli et La Rochefoucauld, sont quelquefois aussi graves que ceux que Cicéron imagine dans ses dialogues. On y touche aux questions les plus délicates de la vie, comme dans le traité des devoirs. On y parle de la mort, comme dans les Tusculanes. On va même plus loin que la mort, et l'on pénètre résolument jusqu'à ces terres inconnues où Cicéron ose à peine s'aventurer et qu'il ne fait guère qu'entrevoir dans le songe de Scipion. De quelques sujets qu'on parle, cependant, la présence des femmes introduit quelque chose de plus libre, de plus vif, de plus piquant que lorsque les hommes seuls ont la parole. Et j'avoue que ces conversations, à la fois si sérieuses et si agréables, dont les lettres de Madame de Sévigné me donnent l'idée, ne me laissent regretter ni celle de Crassus avec Antoine à Tusculum, ni celle de Cicéron avec Atticus, dans la petite île du Fibrène et sous le chêne de Marius. Après avoir vu ce qu'était la vie du monde au temps de Cicéron et de Madame de Sévigné, on voudrait pénétrer plus avant et chercher, à l'aide des deux correspondances, ce qu'était alors la vie de famille. Mais il faut se tenir ici aux grandes lignes. Une comparaison complète serait infinie et mènerait trop loin. Ce qui frappe le plus au premier abord, ce sont les différences. Certes, ces deux sociétés ne comprenaient pas la vie de famille de la même façon, et il y a bien loin de ces unions si facilement rompues par le divorce qu'on les a appelées un adultère légal à la gravité du mariage chrétien. Il faut cependant remarquer qu'à l'époque de Cicéron, malgré tous ces désordres et tous ces abus, le mariage était en somme plus près de ressembler à ce qu'il est chez nous qu'au temps où la famille était plus pure et le divorce inconnu. L'importance des femmes s'était fort accrue dans la maison. Par l'usage, sinon par la loi, elles étaient devenues les égales des hommes, et ce procès dont on fait honneur au christianisme parce qu'il en a proclamé la légitimité était en fait presque accompli avant lui. Les malins récits de Cicéron nous montre que dans beaucoup de ménages, c'est la femme qui commande. Le bon Sulpicius se laisse tout à fait mener par la sienne. Brutus confie à Portia ses desseins les plus secrets, et il l'admet avec sa mère et sa sœur dans ses délibérations où le sort de son pays et le sien se discutent. Dès ce moment, Les femmes sont mêlées à presque toutes les intrigues qui troublent la République. Et nous approchons du temps où Livie partagera presque avec Auguste le pouvoir souverain. Il ne faut rien exagérer cependant, et les lettres mêmes de Cicéron nous réfuteraient si nous prétendions que la famille avait alors l'importance qu'elle a prise plus tard. On est généralement fort scandalisé de la façon dont il apprend à son meilleur ami Atticus les événements les plus graves de sa vie intérieure. Dans une lettre où il lui demande de lui acheter des statues pour ses maisons de campagne, il ajoute incidemment « Mon père est mort le 24 novembre. Il ne met pas plus de cérémonie à lui annoncer la naissance de son fils. Sachez, lui dit-il, que ma famille s'est augmentée d'un garçon et que Terentia se porte bien. » C'est à peu près la formule par laquelle nous communiquons aux indifférents les événements de cette nature. Tullia, qu'il aimait tant, n'est pas plus favorisée quand elle se marie. Il se contente d'écrire à Atticus « J'ai fiancé ma petite Tullia à Pison, fils de Lucius. » Comment expliquer la sécheresse de ces formules? Doit-on en accuser, comme on l'a fait, l'insensibilité de son cœur? Toute sa vie proteste contre ce reproche. Nous savons qu'il aimait beaucoup son fils et qu'il adorait sa fille. Mais il faut reconnaître que la famille tenait moins de place dans la vie d'un Romain que dans la nôtre. D'ordinaire, on ne songeait pas à ennuyer le public des détails de son ménage, et c'est à peine si l'on en causait avec quelques amis. L'affection pouvait et devait être aussi grande entre les pères et les enfants, mais ces sentiments, si vifs, si sincères qu'on les suppose, étaient au second rang dans l'âme. Les affaires politiques passaient avant tout le reste, et la vie intérieure disparaissait dans le bruit que faisait la vie publique. Tout est bien changé depuis ce moment. On peut dire qu'à chaque évolution de l'humanité, l'importance de la famille s'est accrue, mais jamais elle n'avait été si grande qu'aujourd'hui. Les sociétés anciennes vivaient sur la place publique. La société du XVIIe siècle avait placé son centre dans les salons. La nôtre a mis le sien dans la famille. Si l'on veut suivre d'une façon rapide et abrégée les progrès qu'elle a faits, on n'a qu'à voir l'importance que prend, suivant les époques, celui qui en est l'âme et le lien, l'enfant. Cicéron parle, dans une de ses lettres, d'un pauvre petit enfant de sa fille qui ne vécut pas. Ses expressions sont d'une froideur et d'une sécheresse étranges. Il l'appelle à peu près un avorton. Quod natum est perim becillimum est. L'expression de cette froideur se trouve dans la phrase suivante des Tusculanes. Quand un enfant meurt jeune, on s'en console facilement. S'il meurt au berceau, on ne s'en occupe seulement pas. Il n'en est plus ainsi au XVIIe siècle, et l'enfant est alors devenu un personnage dans la famille. Cependant, il reste encore, dans la façon dont on le traite, bien des choses qui nous choquent. Ai-je besoin de rappeler ce monstrueux abus, déploré par Bossuet, de sacrifier sans pitié tous les autres enfants à la fortune du fils aîné, c'est-à-dire d'immoler l'affection à la vanité? Nous en avons un bien triste exemple dans les lettres de Madame de Sévigné. La fille aînée de Madame de Grignan, la douce et bonne Marie Blanche, fut de bonne heure éloignée de la maison paternelle. On ne voulait pas qu'elle prît le goût d'y vivre. Il était décidé qu'elle ne devait pas y rester. À 5 ans, on l'a mis au couvent et elle n'en sortit plus. À 15 ans, elle prit le voile, sans que personne se fût demandé si cette vie austère lui convenait. Seule la grand-mère fit entendre de loin une plainte douce et comme un soupir étouffé. La pauvre enfant, qu'elle est heureuse si elle est contente. Cela est sans doute, mais vous m'entendez bien. Au moins, parvint-elle à sauver la seconde, Pauline, qui devait être enfermée comme l'autre. Il y a quelque chose de bien triste et de bien touchant dans cet appel répété qu'elle fait au cœur de sa fille. « Aimez, aimez, Pauline, lui dit-elle, ne vous refusez pas ce plaisir. » Elle eut grand-peine à se faire écouter. Il fallait bien accroître la fortune du fils et lui laisser les moyens de faire une grande figure dans le monde. Mais ce fils lui-même, qu'on voulait ainsi enrichir aux dépens de ses sœurs, ce fils, si souhaité, si admiré, auquel on achetait sans compter, malgré la détresse de la famille, des compagnies et des régiments, ce fils ne fut pas dans son enfance beaucoup plus soigné que les autres. L'altière comtesse le livrait à ses domestiques. Elle le laissait à Grignan pendant ses voyages à Paris et passait des années sans le voir. Même quand il devint plus grand, il tenait encore si peu de place dans la vie de sa mère que Madame de Sévigné se plaignait qu'il se gâtait fort avec les valets. Ai-je besoin de dire combien cette négligence est loin de nos habitudes? Aujourd'hui, on ne sacrifie plus ses enfants les uns aux autres, on se sacrifie à eux. On ne les laisse plus parmi les valets dans les antichambres. Ils s'installent, ils règnent au salon. Ils sont devenus les maîtres et quelquefois les tyrans de la famille. Je me suis trouvé insensiblement amené à propos des autres à parler de nous. Quand on compare entre elles les deux époques, dont les lettres de Cicéron et celles de Madame de Sévigné nous entretiennent, il est bien difficile de ne pas faire un retour sur soi et de ne pas songer aussi un peu à notre temps. Je ne veux pourtant pas céder au plaisir de faire un parallèle qui m'éloignerait trop du sujet que je traite. Je dirais seulement qu'il me semble que cette comparaison ne serait pas toujours à notre désavantage. Et qu'après tout, les tableaux du passé que nous avons sous les yeux ne sont pas faits pour nous dégoûter du présent. Je suis surtout frappée de voir que nos devanciers se plaignaient déjà des maux dont nous souffrons nous-mêmes, et que les fautes dont ils s'accusaient sont précisément celles que nous nous reprochons avec le plus d'amertume. Par exemple, on nous répète à satiété que nous n'avons plus de soucis que de l'argent, que nous ne savons que compter, et que cette passion a remplacé pour nous toutes les autres. Assurément, je ne voudrais pas prétendre que ce reproche n'est pas fondé, mais je suis un peu surpris de voir qu'Horace l'adresse déjà aux gens de son époque, et presque dans les mêmes termes. De même, je remarque à tout moment dans les lettres de Cicéron que les questions d'argent dominent toutes les autres, que les convenances faisaient souvent les convictions, et qu'il arrivait aux hommes d'État les plus illustres de sacrifier sans scrupule leurs principes à leurs intérêts. Si de la République romaine je passe au XVIIe siècle, je lis dans Balzac ces paroles qu'on croirait écrites par un moraliste contemporain à l'usage de la jeunesse d'aujourd'hui. De l'âme des fermiers et des receveurs, il a passé ce misérable intérêt en celle des gentilshommes et des princes. Il entre dans les professions qui en sont apparemment les plus éloignées. On ne se laisse plus prendre à la gloire. Les belles opinions ne font plus de secte. Elles ne gagnent rien sur des esprits qui veulent toucher et compter leur félicité, qui n'estiment que ce qui tombe sous les sens et qui est de mise dans le commerce. Balzac n'a rien exagéré. La correspondance de Madame de Sévigné nous le fait bien voir, en nous montrant combien les gens étaient occupés alors de faire leur fortune et tout ce qu'ils osaient pour la croître. Cette époque, qui nous paraît si noble dans ses affections, si désintéressée dans ses goûts, si curieuse du beau, si éprise du grand, que nous ornons à profusion de toutes les qualités qui nous manquent, et où notre imagination se réfugie si volontiers pour se sauver des misères du présent, la plupart des contemporains n'en parlent que comme du règne des traitants et des maldotiers. On nous dit encore que, de nos jours, les caractères se sont abaissés. On nous fait honte des petitesses et des défaillances dont notre histoire politique est pleine. Et je confesse qu'il est bien difficile de n'en pas être confus. Mais les caractères étaient-ils beaucoup plus fermes dans ces temps que nous retracent les lettres de Cicéron? Y avait-il autour de lui, dans le parti le plus honnête, bien des gens qui n'eussent pas quelque faiblesse à se reprocher? Et Brutus ou Caton, n'avait-il pas raison de mépriser la plupart de ceux à côté desquels ils étaient forcés de combattre? L'époque de Louis XIV a été moins soumise à ces révolutions politiques où se perdent tant de caractères qui étaient faits pour le repos. Et cependant, que d'intrigues honteuses et de coupables compromis ne cachent pas cette décence extérieure dont tout est couvert. Cette aristocratie qui nous semble de loin si distinguée et si séduisante, il ne faut pas la regarder de trop près pour l'estimer encore. Elle perd beaucoup à être vue dans les antichambres de Louis XIV. Comme celle de Rome au temps de Cicéron, elle est complètement ruinée. Le luxe, la vanité, les plaisirs coûteux avaient mis le désordre dans les plus grandes maisons. On n'en voit presque pas une de celles qui paraissent dans les lettres de Madame de Sévigné qui ne soit réduite aux expédients pour vivre. Or, l'expédient le plus facile et le plus sûr était de tendre la main au roi et on le faisait sans honte. Versailles était peuplé d'une foule de gentilshommes sans ressources, de pauvres diables de qualité comme les appelait Bussy, prêts à toutes les bassesses pour obtenir quelques écus, empressés à offrir au roi leur sœur comme Rohan, leur nièce comme Villarceau, ou leur femme comme Soubise, assidus à lui faire leur cour pour se trouver sous ce qu'il jette quand il distribue ses libéralités, ou plutôt ses aumônes, et osant écrire sans rougir, je lui embrasserai si souvent les genoux que j'irai peut-être jusqu'à sa bourse. Quand on voit de près leurs manœuvres et leurs cabales, cette lâche servilité pour les ministres tout-puissants, cette arrogance pour les ministres disgraciés, ce siège en règle qu'ils font tous les jours de la générosité de leur maître, on comprend ce mot amer qu'écrivait l'honnête madame de Latroche à son amie madame de Coulanges. J'arrive de Versailles, où j'ai été 8 jours. Je voudrais vous pouvoir bien représenter tout ce que j'y ai vu de bassesse, d'empressement et de jalousie. J'en méprise le genre humain. Les révélations de ce genre, qu'on rencontre à chaque pas dans les lettres de Madame de Sévigné, dérangeront peut-être beaucoup d'opinions toutes faites et d'admirations volontairement exagérées. Mais je ne crois pas que ces admirations méritent qu'on les respecte. Sans doute il ne faut pas se plaire à abaisser le passé, c'est un mauvais sentiment et qui n'a jamais profité à personne. Mais il ne faut pas souffrir non plus qu'on l'exalte outre mesure pour humilier le présent. Il n'est pas salutaire de dégoûter les gens de l'époque dans laquelle ils vivent. Quand on les a découragés d'avance, quand on leur a ôté tout ressort pour faire le bien, en leur enlevant l'espérance d'y réussir, ils s'abandonnent eux-mêmes et finissent par mériter l'opinion qu'on avait d'eux. Le grand service que nous rendent ces correspondances, où la vérité n'est pas déguisée, c'est de nous donner plus d'estime pour nous-mêmes. Nous en avons grand besoin. Quoique les moralistes nous accusent d'être trop complaisants pour nos mérites, je trouve que nous sommes au contraire trop portés à nous maltraiter. Le siècle où nous vivons est toujours pour nous le siècle de fer. Quant à l'âge d'or, aux différentes époques de notre vie, nous le plaçons à des endroits différents. Quand nous sommes jeunes et pleins d'espérance, nous regardons devant nous. L'âge d'or nous semble alors dans l'avenir. Après que nous avons vieilli, et que, suivant la belle expression d'Aristote, la vie nous a humiliés, nous nous retournons brusquement en arrière et nous le mettons dans le passé. Pour moi, je ne sais s'il faut espérer qu'on le verra un jour, mais après avoir lu les lettres de Madame de Sévigné et celles de Cicéron, je suis bien sûr qu'on ne l'a pas encore vu. Troisième partie. Je n'ai pas encore parlé de ce qui frappe peut-être plus que tout le reste quand on compare les deux correspondances que j'étudie. On est très surpris de voir, même en les lisant rapidement, que les préoccupations religieuses tiennent tant de place dans les lettres de Madame de Sévigné et qu'on ne les retrouve nulle part dans celles de Cicéron. Cette différence mérite de nous arrêter un moment. Elle est trop radicale pour tenir uniquement au caractère des deux écrivains. Et je crois qu'on peut d'abord en conclure que des deux sociétés parmi lesquelles ils ont vécu, l'une avait le sentiment religieux et l'autre ne l'avait pas. Il est bien entendu que par ce mot, je ne veux pas seulement parler de l'adhésion à un culte établi. On ne peut pas raisonnablement attendre de Cicéron, tout augure qu'il était, beaucoup de respect pour les fables ridicules sur lesquelles était fondée la religion de son pays. Je veux parler de ce besoin que nous éprouvons de sortir de nous et de chercher ailleurs la raison de notre existence et la loi de notre destinée. Ainsi compris, le sentiment religieux donne une élévation singulière à la vie. Et l'on peut dire qu'il manque un élément de grandeur à la société qui ne l'a pas connue. Une des formes les plus générales, les plus populaires par lesquelles il se révèle, c'est ce désir que nous avons de savoir ce qui arrive de nous après la mort. Le problème de l'avenir n'est pas seulement un problème philosophique, c'est-à-dire un de ceux que se pose une curiosité savante et qu'elle étudie froidement avec les procédés ordinaires de l'esprit. Il trouble l'âme autant qu'il occupe la raison. Ce qui le prouve, c'est l'inquiétude où nous sommes tant qu'il n'est pas résolu, l'émotion et la plénitude de joie qu'on éprouve quand on croit en tenir la solution. Enfin, ce puissant attrait, cet élan passionné qui nous entraîne vers cet infini, de quelque nature qu'il soit, de quelque nom qu'on l'appelle, dans lequel nous pensons trouver le complément ou le terme de notre existence. Ces sentiments n'ont point été étrangers à Cicéron, et on les retrouve dans ses œuvres philosophiques. La grande doctrine du Phédon l'a séduit. Il s'est mis hautement du côté de ceux qui espèrent que l'âme ne périra pas, et il a essayé de donner des raisons plausibles de cette espérance. Les traités de la vieillesse et de la République contiennent les pages les plus émues et les plus brillantes qu'on ait écrites sur l'immortalité depuis Platon. Mais, en dehors de ces ouvrages de philosophie, il ne semble plus aussi fermement convaincu de cette vérité. Nous sommes très surpris de voir qu'il l'abandonne plus d'une fois dans ses discours. Il y affirme résolument que l'âme ne survit pas au corps et que la vie future n'est qu'une invention des sages politiques pour faire peur aux méchants des supplices éternels. Il est vrai qu'il ne faut peut-être voir dans ces affirmations que des artifices d'avocat. Il nous a dit lui-même, nous nous en souvenons, que ses plaidoyers ne contiennent pas l'expression de ses opinions personnelles, qu'il y parle le langage des circonstances et non celui des convictions. Mais, dans ses lettres intimes, rien ne le force à mentir. Là, il peut être impunément sincère, il ne s'adresse qu'à un ami, il ne parle plus pour les besoins d'une cause, il dit ce qui est au fond de son cœur. Comment se fit-il donc que ses espérances d'immortalité, si éloquemment exprimées dans le songe de Scipion, ne se retrouvent nulle part dans sa correspondance? Quand il parle en philosophe, nous l'entendons dire que la vie ne doit être que la méditation de la mort, vita mortis commentatio est. Et, quand nous descendons dans sa vie par sa correspondance intime, nous voyons qu'infidèle à ses principes, il pense rarement à la mort et jamais à ce qui doit la suivre. Ce ne sont pas, cependant, les circonstances qui ont manqué pour faire naître en lui ses pensées. On prétend que, s'il est ordinaire de les oublier dans la postérité, le malheur inévitablement les réveille. Or, peu de personnes ont été plus malheureuses que Cicéron. Il a vu périr la République. Il a perdu sa fille qu'il adorait. Et dans ces moments d'amère tristesse, où l'on se sent découragé de vivre, où le dégoût des choses présentes nous précipite vers l'espérance de l'avenir, on ne voit pas que ces espérances aient jamais ému son cœur. Au contraire, il nous déclare froidement à deux reprises qu'il ne faut pas compter que la vie est un lendemain. Heureux, dit-il, nous devons mépriser la mort. Malheureux, il nous faut la souhaiter, car il ne reste plus aucun sentiment après elle. Une contradiction si éclatante nous trouble. Elle nous met en doute sur la sincérité de Cicéron dans ses œuvres philosophiques. Et nous nous demandons ce qu'il faut penser de ces nobles doctrines qu'il expose avec tant d'éloquence et un air de conviction parfaite quand nous voyons qu'il en fait pour lui si peu d'usage et qu'il les contredit si vite. Cette question, à mesure que nous y réfléchissons, s'agrandit encore. De lui, notre doute s'étend aux autres. Nous souhaiterions savoir jusqu'à quel point ces grands principes de la philosophie antique, qui nous ravissent lorsque nous les voyons si admirablement exprimés, entraient alors dans la vie commune. Était-il seulement un thème brillant pour exercer l'intelligence d'un grand écrivain et lui permettre de la montrer, ou une croyance positive qu'on s'appliquait à soi-même et sur laquelle on réglait sa conduite? Sont-ils jamais descendus dans la pratique? Et, s'ils sont sortis des écoles, jusqu'à quel rang de la société ont-ils pénétré? C'est ce qu'il n'est pas aisé de savoir. Les moyens nous manquent souvent d'interroger ces sociétés éteintes et de leur demander ce qu'elles pensaient de ces problèmes si délicats. On connaît l'opinion de quelques écrivains dont les ouvrages ont survécu. Mais celle de la foule est souvent un secret qu'elle a emporté avec elle. Ici, au moins, et pour la question particulière qui nous occupe, notre curiosité peut se satisfaire. Il nous est facile de connaître quelle était à Rome l'opinion de tout le monde sur le problème de l'avenir. Pour la savoir, nous n'avons qu'à parcourir, dans un recueil d'inscriptions latines, la série des épitaphes. C'est comme une promenade que nous faisons dans un cimetière antique. Dès les premiers pas, nous y saisissons la pensée populaire de toute l'Antiquité sur la mort. Nous sommes dans l'asile du sommeil éternel. Somno aeterno sacrum. Tous ces gens-là nous disent que le tombeau est pour eux une maison. Haec est domus mea. Et une maison qu'ils ne pensent pas quitter. C'est ce qui explique le soin minutieux qu'ils prennent pour s'en assurer la position exclusive. On commence par se la préparer d'avance et de son vivant. Les héritiers sont si négligents. Pour être plus sûrs de la conserver, les riches construisent de petites habitations autour d'elle et y logent des gardiens. Ceux qui ne peuvent pas se permettre ce luxe posthume ont recours à des menaces terribles pour effrayer les spoliateurs. Que celui qui aura violé cette sépulture, disent-ils, périsse le dernier des siens. Les pauvres gens sont plus humbles et se contentent de supplier. Laboureur, dit un affranchi qui s'est fait enterrer au bord d'un champ, prends bien garde. C'est ici que je repose. Toutes ces précautions prouvent bien qu'on regardait cette demeure comme un séjour définitif. On n'aurait pas pris tant de peine si on avait cru qu'on en sortirait. Ce qui le montre encore mieux, c'est le peu de gravité de la plupart de ces inscriptions. Quand on se sent en présence d'une éternité qui commence, il est naturel que les plus futiles se recueillent. Or, il n'y a presque jamais de traces de ce recueillement dans les épitaphes antiques. Plusieurs même ne contiennent qu'un appel au plaisir. La seule morale qu'elles tirent de la fragilité de la vie, c'est qu'il faut s'amuser vite, puisqu'on ne peut pas s'amuser longtemps. Amis, disent-elles, tandis que nous vivons, vivons. Amici, dum vivimus, vivamus. Mais on a beau faire, la mort fait peur aux plus fanfarons. On ne se résigne pas sans un frisson à ce silence et à cet isolement éternel. Aussi trouve-t-on sur quelques tombes la trace des efforts qu'on faisait presque malgré soi pour se rattacher de quelque manière à la vie. On lit, sur celle d'un certain Lollius, qu'il l'avait fait mettre au bord d'une route pour qu'on pût lui dire en passant « Adieu Lollius », c'est-à-dire pour que quelque bruit de la vie arrivât encore jusqu'à lui. Voilà pourquoi les sépultures antiques étaient placées le plus souvent sur les grands chemins. La voie latine et la voie appienne en sont bordées à Rome. Et c'est entre deux rangées de tombeaux que le voyageur entre encore aujourd'hui dans Pompéi. Sur ces tombeaux, tantôt c'est le mort qui parle et qui salue le passant en se recommandant à son souvenir, tantôt au contraire, c'est le passant qui est censé saluer le mort de cette formule si connue, que la terre te soit légère. Mais dans ce dialogue funèbre, nulle part, on ne voit poindre l'idée d'une autre vie. Elle n'est ni dans les plaintes du mort, ni dans les consolations du vivant. Et pourtant, il semble que dans les deux cas, l'occasion se présentait naturellement de l'exprimer. Elle se retrouverait de quelque façon sur ces tombeaux si elle avait jamais été dans le cœur ou dans l'esprit de ceux qui les élevèrent. Or, il est très rare qu'on rencontre dans ces inscriptions la plus vague, la plus incertaine allusion à la persistance de la vie. Beaucoup, au contraire, contiennent la certitude d'un entier anéantissement. Elles regardent le temps où nous avons vécu comme un éclair d'existence entre deux infinis de néant. « Je n'étais pas, je ne suis plus, » disent-elles sans tristesse. « Non fueram, non sum. » Et les plus résignés ou les plus malheureux ajoutent « Et je ne souffre plus. » Non doleo. Nous saisissons là sur le vif l'opinion de l'Antiquité à propos de la vie future. Il me semble que lorsqu'on la connaît, il devient plus facile de comprendre les contradictions du Cicéron. Je ne crois pas qu'il ait voulu abuser personne, ou qu'il se soit tout à fait abusé lui-même. Comme il avait l'imagination naturellement portée vers les grandes choses, cette noble doctrine de Platon lui convenait. Son esprit l'avait adoptée, mais elle n'était pas allée plus loin que son esprit. Ce n'est pas la même chose d'être convaincu par la raison de la vérité d'un principe ou de s'en pénétrer profondément et de le faire entrer dans sa vie. Que de gens se disent convertis à une croyance et la défendent sincèrement, qui, en attendant qu'elle ait pu jeter en eux ses racines, pensent et vivent comme s'ils en suivaient une autre. C'est ce qui arrive à Cicéron. La doctrine de Platon et le sentiment religieux qui en est la suite sont restés chez lui à la surface. En réalité, il n'a pas su se débarrasser de cette tyrannie de l'opinion commune qui règne encore sur nos habitudes après que nous l'avons chassée de notre esprit et à laquelle notre vie continue d'être soumise même quand nous en avons délivré notre raison. Je me figure donc, en lisant ces lettres, qu'il y avait dans la société romaine de ce temps un fond d'indifférence pour tout ce qui touchait aux questions religieuses. Peu d'empressement à s'occuper de l'existence ou de la nature de Dieu, et une grande incrédulité à l'endroit de l'autre vie. Quelques personnages d'élite avaient bien essayé d'établir d'autres doctrines. Mais ce n'était guère que dans leurs écrits qu'ils affectaient de ne pas penser comme le vulgaire. Ils reprenaient les opinions de tout le monde quand ils étaient rentrés dans la vie commune. C'est précisément le contraire qui arrive au XVIIe siècle. Il y avait alors un grand courant religieux, et les esprits isolés qui essayaient d'y résister par libertinage de conduite ou indépendance d'opinion, finissait presque toujours par se laisser vaincre. Nous avons vu que dans l'Antiquité, les plus croyants n'étaient point toujours d'accord avec eux-mêmes parce qu'ils subissaient, à certains moments, l'incrédulité générale. Ici, ce sont les incrédules qui se contredisent parce qu'ils cèdent sans le vouloir à la foi commune. Cette société, en apparence si riante et si futile, était tourmentée au fond par les inquiétudes de l'avenir. Ce problème redoutable, si facilement éludé par les Romains, se pose presque à chaque instant chez elles. Quoique la vie présente la tire et la retienne par ses agréments, elle est bien souvent par ses craintes en présence de l'autre vie. De là, que de sentiments nouveaux, que d'émotions, que de terreurs et d'espérances qui n'ont jamais été connues de l'Antiquité. Nous voyons bien, en comparant les lettres de Madame de Sévigné à celles de Cicéron, que la vie intérieure, celle dont l'âme est le théâtre, a tout à fait changé d'une époque à l'autre. Dans les dissipations du monde, au plus fort des fêtes et des plaisirs, il arrivait à Madame de Sévigné d'avoir de ces pensées qui égratignent la tête, mais c'est surtout quand elle vit seule, à Livry ou au Rocher, qu'elle a comme des retours réglés de dévotion. Là, dans ce triste et tranquille repos, rêver à Dieu, à sa providence, posséder son âme, songer à l'avenir, c'était sa vie entière. Elle pensait alors à sa fille absente, aux amis qu'elle avait perdus, à la mort surtout, qu'elle craignait tant à cause de ce qui doit la suivre. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarqué dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte, cela m'assomme. Et comment en sortirai-je? Par où? Par quelle porte? Quand sera-ce? En quelle disposition? Comment serais-je avec Dieu? Qu'aurais-je à lui présenter? Quelle alternative? Quel embarras? J'aurais bien mieux aimé mourir entre les bras de ma nourrice. Et elle se promettait de mieux vivre désormais et de songer davantage à ce terrible moment. Mais bientôt, un souffle, un rayon de soleil, emportait toutes ses réflexions du soir. Elle retournait dans les salons, au milieu de ses amis, reprenait plaisir aux conversations médisantes, riait comme les autres et plus que les autres, de tous les malins récits, et ne résistait pas au plaisir de les redire avec une verve qu'on admirait. Elle s'en voulait, se grondait, et ne se corrigeait pas. « Je ne suis ni à Dieu ni au diable, disait-elle. Cet état m'ennuie, quoique, entre nous, je le trouve le plus naturel du monde. » C'est dans ces alternatives que se passait sa vie et celle de la plupart de ses contemporains. Ils hésitaient, ils flottaient comme elle entre le diable et Dieu, jusqu'au jour qui ne manquait pas d'arriver où Dieu l'emportait. Tantôt, c'était une grande émotion. Par exemple, la mort d'une personne aimée, comme il arriva à Rancé et à Tréville, qui les arrachait au monde. Le plus souvent, c'était l'âge qui les ramenait aux pensées sérieuses. Pendant qu'ils gravissaient tristement le chemin laborieux de la vieillesse, les souvenirs d'une éducation chrétienne se réveillaient naturellement en eux et les rejetaient vers la dévotion. Les lettres de Madame de Sévigné sont pleines de ces fins pieuses. On n'échappait pas à ces sentiments. Les personnes, même en apparence les plus rebelles par leur conduite ou leurs opinions, les hommes les plus occupés de leurs affaires, les plus sensibles à leurs intérêts, les femmes les plus dissipées et les plus mondaines, finissaient par céder, comme les autres. Est-ce bien cette Madame de Coulanges, sérieuse, si légère, si enivrée des plaisirs du monde, si remplie de ses futilités, et sur laquelle il semble que la morale chrétienne devait glisser, qui écrit à son mari ces paroles sérieuses? « Je ne me soucie plus du monde. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir. Je n'ai plus qu'une vieille figure à lui présenter, plus rien de nouveau à lui montrer ni à découvrir. » Et que veut-on faire de recommencer toujours des visites, de se troubler des événements qui ne nous regardent point? Mon cher monsieur, il faudrait songer à quelque chose de plus solide. Il faut avouer que ces sentiments nous transportent dans un monde dont les lettres de Cicéron ne nous donnaient pas l'idée. Je n'achèverai pas ces réflexions sans faire remarquer combien la dévotion de Madame de Sévigné, assez tiède en pratique, avait dans la théorie des excès et des timidités qui surprennent. On sait avec quelle chaleur elle défendait les opinions de Port-Royal et la doctrine de la grâce. Tout ce qui était grand et même exagéré la séduisait. Le magnifique exemple des mères de l'Église, Mesdames de Conti et de Longueville, ces anciennes héroïnes de la Fronde qui s'étaient jetées dans les austérités de la pénitence avec un entraînement romanesque, la frappaient d'une admiration aussi vive que les divines saillies de Corneille qui font frissonner. Mais ce qui l'entraînait encore plus que tout le reste dans le parti des jansénistes, c'est qu'ils étaient poursuivis et persécutés, et que la doctrine de Port-Royal était une doctrine d'opposition. Ceci mérite d'être remarqué. Cette femme, si douce, si conciliante dans ses relations, qui s'accommodait si facilement au caractère et à la façon de penser des autres, avait pourtant son franc-parler. Malgré sa dévotion sincère, elle disait son sentiment sur les choses religieuses, et ce sentiment ne laissait pas que d'être quelquefois très hardi. Elle n'était pas de ces chrétiens soumis qui regardent l'ignorance comme la sauvegarde la plus sûre de leur foi, qui s'imaginent que la meilleure manière de résoudre les objections, c'est de n'y penser jamais, et qui croient devoir tenir leur esprit à jeun pour le mortifier comme le corps. Elle se permettait de réfléchir sur ses croyances. Elle lisait beaucoup, et comme elle souhaitait sincèrement s'éclairer, elle se gardait bien de ne lire que les gens qui étaient de son avis. « Nous battons tous les chemins, » disait-elle. Et en effet, on la voit mêler à Pascal et à Nicole les ouvrages de Claude, de Burnet, et même un peu d'Alcoran. De toutes ces lectures, il était résulté une croyance fermement assise, mais précisément parce qu'elle était sûre d'elle-même, une croyance libre et hardie. Elle ne se cache pas pour sourire de la chasse de Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel. Elle parle légèrement de Rome et des conclaves, et ce n'est pas sans ironie qu'elle nous raconte qu'on a chargé le cardinal de Retz d'y ramener le Saint-Esprit. Elle a des doutes qu'elle exprime avec franchise. « Vous aurez peine, dit-elle, à nous faire entrer une éternité de supplice dans la tête, à moins que d'un ordre du roi et de la Sainte Écriture. » Quand elle discute avec une huguenote, elle l'étonne par les concessions qu'elle lui fait. Je lui abandonnais les abus et les superstitions. Je ne la poussais point sur le Saint-Sacrement. Je crains bien qu'un dévot difficile ne lui trouva pas assez de soumission et d'humilité. De même, en politique, elle admire sincèrement le roi. Elle a vu les plus belles années de son règne. Mais son admiration n'a jamais un air de servilité. Quelque absolu que soit ce régime, on voit bien que nous ne sommes pas dans une de ces royautés de l'Orient qui impose une obéissance aveugle et muette. Ce despotisme, après tout, laisse sourire et causer, et il règne autour de lui une liberté d'esprit qui le tempère. Madame de Sévigné a bien des mots piquants et amers sur la cour. Elle n'approuve pas toutes les mesures qui s'y prennent. Elle ose rester l'amie de cœur de ceux que le maître a disgraciés. Elle continue à regarder comme innocents ceux qu'il condamne. Rien ne lui déplaît comme la flatterie, et elle blâme sans se gêner les excès du zèle monarchique. Par exemple, elle ne pardonne pas aux minimes de Provence d'avoir comparé le roi à Dieu, mais d'une manière où l'on voit clairement que Dieu n'est que la copie. « Trop est trop, » ajoute-t-elle, « je n'eusse jamais soupçonné des minimes d'en venir à cette extrémité. » Et il faut bien remarquer que ce ton de fine ironie et ce franc-parler qui étonne ne devait pas être particulier à Madame de Sévigné. Elle est femme, et dans les choses politiques surtout, elle n'a pas d'initiative. Elle pense et elle parle par réverbération, comme elle dit. Les sentiments qu'elle exprime sont donc ceux des personnes auprès desquelles elle vivait, c'est-à-dire des gens les plus importants du royaume, par la naissance et par l'esprit, de ceux qui devaient avoir le plus d'influence sur l'opinion publique. Que faut-il en conclure ? C'est que sous cet air d'obéissance et de soumission, il y avait alors, plus qu'on ne croit, de petites résistances, une opposition timide de railleries et de bons mots, et dans les matières religieuses, comme dans les questions politiques, une certaine liberté de jugement. C'est ce qu'on aperçoit guère quand on se contente d'étudier cette époque par ses dehors. Il semble alors qu'il y ait un abîme entre elle et le siècle qui la suit. Mais cet abîme se comble lorsqu'on regarde de plus près. Par exemple, lorsqu'on lit une correspondance intime comme celle de Madame de Sévigné. On voit bien, en la lisant, que malgré les différences qui les séparent, un de ces siècles conduit à l'autre sans secousse. On n'a pas besoin d'aller chercher pour les rapprocher quelques sceptiques isolés comme Bel ou Saint-Évremond, qui n'eurent pas beaucoup de prise sur leur temps. Voltaire a plus d'aïeux qu'on ne lui en donne d'ordinaire, et il convient de faire entrer dans sa généalogie des gens qui ne se doutaient pas du petit-fils que la Providence leur préparait. c'est peut-être l'intérêt le plus piquant de la correspondance de Madame de Sévigné, qu'elle montre comment le siècle le plus croyant et le plus monarchique s'acheminait sans le savoir vers le siècle le plus révolutionnaire et le plus incrédule. L'histoire de France est la plus logique de toutes. Rien n'y arrive au hasard, et tous les effets y ont des causes longuement préparées pour qui sait les voir. Je ne sais pas en vérité pourquoi l'on nous accuse d'être inconséquents et immobiles. Il n'y a pas de peuple qui ait été aussi opiniâtrement fidèle à son caractère, et chez qui les événements se développent avec autant de suite et de régularité. Après avoir reconnu que ces deux époques sortent l'une de l'autre, il faut pourtant s'empresser d'ajouter qu'elles ne se ressemblaient guère. À le prendre dans son ensemble, le XVIIe siècle est assurément un siècle de foi. Ce travail intérieur qui devait finir par ébranler les croyances n'était alors visible pour personne. Les vérités religieuses n'avaient pas reçu d'atteinte sérieuse, et l'on ne doutait pas de la solidité de l'établissement monarchique. On ne se divisait que sur les points de détail, et il y avait une sorte de communauté d'opinion au sujet des questions les plus graves. Ce sont là de grands avantages, et nous les apprécions d'autant plus que nous sommes plus loin de les posséder. Des deux époques que nous dépeignent les lettres de Cicéron et celles de Madame de Sévigné, c'est à la première surtout que nous ressemblons. Elle n'avait pas plus que nous de croyances solides, et la triste expérience qu'elle avait faite des révolutions l'avait dégoûtée de tout en l'habituant à tout. Elle connaissait comme nous ses mécontentements du présent et ses incertitudes du lendemain, qui ne permettent pas de goûter un repos tranquille. Nous nous retrouvons en elle. Les tristesses des hommes de ce temps sont en partie les nôtres, et nous avons souffert des maux qu'ils enduraient. Nous sommes placés, comme eux, dans une de ces époques intermédiaires les plus douloureuses de l'histoire, où les traditions du passé ayant disparu et l'avenir ne se dessinant pas encore, on ne sait plus à quoi s'attacher. Et nous comprenons bien qu'il leur soit arrivé souvent de dire avec le vieil Hésiode que je voudrais être mort plus tôt ou être né plus tard. C'est ce qui nous fait prendre un intérêt si triste et si vif à la lecture des lettres de Cicéron.